ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour.
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2 MHz de la bande FM. C'est la voix du Mag qui commence aujourd'hui une émission qui va parler vertige, vestiges, vents et variations, mais pas que. Avec nous dans les studios, Inès Fener qui est ici et maintenant pour échanger autour de « Et si je regarde au fond de mes yeux » de la compagnie L'Agite, une compagnie de théâtre itinérant, et c'est important. Inès, bonjour.
Bonjour.
Alors, « Et si je regarde le monde au fond de mes yeux » sera joué le vendredi 14 octobre à 19h et le samedi 15 octobre à 17h sur la friche d'Empalo.
Sur la friche de l'ancienne place commerciale, ouais. À côté de la Brique Rouge.
Alors déjà, bon, alors sans trop dévoiler le spectacle, je sais que « Et si » allie plusieurs disciplines, un peu la danse, le texte, tu peux nous en dire un tout petit peu plus ?
Alors, « Et si » c'est un spectacle qu'on a écrit à quatre historiques de la compagnie, François Fener, Marion Bouvarel, Bénédicte Ozias et moi-même, et avec lequel moi je leur ai demandé d'interroger un petit peu les mouvements de ce qui aujourd'hui leur posait problème, les indignait aussi. Et pour ça, j'avais besoin aussi d'avoir quelque chose dans la scénographie, qui puisse symboliser le saut, les marches à gravir, l'impulsion. Et donc on a construit une bascule qui pourrait ressembler à une bascule de cirque, mais qui a priori, dixit les circassiens, est beaucoup plus dangereuse. Parce que voilà, c'est des théâtreux qui font une bascule. Et on a construit une bascule, donc on a, ça allie la danse, le texte, la petite prise de risque. En tout cas, nous, ce qui fabrique une harmonie entre les comédiens, parce que la prise de risque entraîne une grande confiance dans les autres, enfin, le besoin de confiance dans les autres. Voilà.
Alors, bon, y a un truc qui me trompe dans la tête. Te fais écouter un truc. Ça te parle ou pas du tout ?
Avec le petit.
C'est le titre en fait.
Ah non,
non,
d'accord.
C'est petit agité. C'était par rapport à agite. C'était pour faire une blague ratée dès le début. Ça met tout de suite très à l'aise.
J'ai une très très mauvaise culture musicale. Je suis très, très mauvaise. Petit agité. Alors l'agite, c'est vrai qu'on a souvent l'impression que c'était à partir du mot agité, comme le fait de s'agiter, de bouger beaucoup, tout ça. Mais l'agite, ça a été créé en 90 par mon père et d'autres, donc François Fener. Et c'était, ça voulait dire en fait association, groupement d'intervention théâtrale. C'était une petite référence au GIGN. Ils se disaient que aller faire de l'intervention théâtrale, c'était peut-être plus intéressant. Et voilà. Donc en fait, aujourd'hui, on l'a un peu transformé en disant qu'on était les agités et tout ça. Mais au départ, c'est vraiment association, groupement d'intervention théatrale, plutôt. Ouais. Un peu moins rigolo.
Ça correspond bien à ces années un peu décalées.
Ça cherchait un détournement et un décalage. C'était pas très institutionnel.
Non, post-situ complètement, j'imagine bien. Bon, c'est un espèce de petit clin d'œil de toute façon avec l'agite. Donc le spectacle est présenté ainsi. Donc, et si je regarde le monde au fond de mes yeux, il s'y passe quoi ? Je regarde l'autre, l'étranger, le fou, l'écolo, celui qui se dit qu'on s'en fout, celui qui se réveille la nuit en se demandant quand est-ce que tout va exploser, celui qui accueille, celui qui s'engage, celui qui rejette, celui qui emmène, celui qui exclut. Donc regarder le monde au fond de soi, c'est souvent avec un filtre qui peut être politique, classiste. Alors je voulais savoir, toi, quel était ton filtre ?
Alors mon filtre à l'écriture et à la recherche sur ce spectacle-là, ce qui nous a fait écrire, c'est d'essayer de voir, en tout cas avec nos mots, avec nos expériences, comment on accueille ce qui nous est étranger, comment on regarde ce qui nous est étranger à tous les niveaux, passer de la petite à la grande histoire, et à quel point on est conditionné aujourd'hui à accueillir de telle manière, à penser de telle manière, et re-questionner ça. Voilà, c'était ça mon fil, c'était le fil d'écriture. Après, on a écrit à quatre, ce qui a été évidemment, et on n'a pas écrit à quatre tout le temps ensemble. Ce qui s'est passé, c'est que je leur ai demandé, j'ai fait une commande d'écriture à ces trois autres personnes, et je leur ai dit, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous réveille la nuit? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir aussi? Quelles sont vos problématiques et vos indignations?
Et tu parlais de conditionnement, là, mais tu penses à quoi, en fait? Aux injonctions?
Aux injonctions, bien sûr.
Aux injonctions culturelles
Culturelles, politiques, sociales, à toutes les injonctions, parce que finalement, on traverse énormément de thématiques avec ce spectacle. On part des injonctions à être femme, femme comme on l'entend, à être mère, à être toujours parfaite pour une femme. C'est voilà, là, c'est le départ, l'entrée en matière du spectacle. Puis on s'ouvre de plus en plus vers la grande histoire de ce qui s'est passé par exemple dans la vallée de la Roya avec ce délit de solidarité, de comment on nous enjoint de ne pas être solidaire aux choses et aux gens. À ne pas accueillir, voilà, ça s'ouvre sur la grande histoire, sur le racisme ordinaire, sur comment des choses sont rentrées dans nos manières de vivre et de penser, qui nous conditionnent et qui nous font, et qu'on a besoin de réinterroger.
Enfin, pour l'analyser, pour le contextualiser, ça fait référence à qui on est, à notre propre matière. Mmh. Et au fond de soi, il y a aussi donc, ces névroses, ces failles, ces doutes. Et évidemment. Comment la part de soi peut freiner aussi le monde et le changement du monde. Il y a un terme un petit peu à la mode qui est la déconstruction.
Oui.
En ce moment,
La part de soi peut freiner par la peur. Nous, ce qu'on a envie de raconter aussi, c'est quand on met en scène cette impulsion, ce saut, quand on se met en danger, nous, en tant que comédiens, en haut d'une grande bascule, on symbolise et on montre que la prise de décision, c'est pas si simple. C'est pas si simple, on a peur de quelque chose, on n'a pas peur de... Ben, c'est pas uniquement des choses qu'on nous dit, on a peur souvent de quelque chose, de choses assez concrètes. Et c'est pas pour ça qu'on a envie de rester immobile.
C'est vrai que tu parlais de la peur, et à un moment dans le texte, tu parles d'identité, je te cite, tant d'identité, de discours, de témoignages contraires, on se questionne aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous rassemble, chacun à son échelle, la peur nous amène tous et toutes à des solutions contraires, la peur qui nous fait avancer, reculer, rejeter, accepter, la peur de sauter, pour reprendre cette idée de bascule, se poser la question de ce que la peur peut nous entraîner à ressentir les uns pour les autres, accepter de faire exploser nos cocons. C'est vrai qu'en lisant, la peur m'a amené aussi à une réflexion autour de l'identité, et j'avais l'impression que ça pouvait être comme une réponse au discours un peu politique, réac, un peu décomplexé, à la Zemmour, qui s'empare en fait.
C'est sûr qu'aujourd'hui, si on a un peu besoin de parler de ces choses-là, que ce soit à la Gîte ou ailleurs, parce que heureusement, beaucoup de gens s'en emparent, c'est que effectivement en tout cas la société actuelle est là, comment ça se passe, ça nous pose question, on s'y retrouve pas forcément. Après, moi ce qui est important pour moi dans un spectacle, et là dans celui-là particulièrement, c'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent penser, c'est de leur exposer des situations. Il y aura des gens qui seront avec nous et il y aura des gens qui seront contre nous, c'est ça qui m'intéresse. C'est le débat, c'est faire un spectacle, c'est poser des questions, c'est ouvrir des débats. On va pas dire aux gens quoi penser. J'ai vraiment pas envie qu'on soit culpabilisant, parce que je trouve que c'est souvent le meilleur moyen de se mettre les gens à dos et de ne plus parler, et de fermer la discussion. J'ai juste envie qu'on réfléchisse ensemble. C'est des pistes. Peut-être que certains trouveront qu'on fouille pas assez certaines choses, parce que c'est vraiment des textes à la première personne qui sont pas forcément tous très longs. Il y en a qui sont très très rapides, très envoyés, très enlevés. D'autres plus intellectualisés, moins sur le renvoi. Mais je sais plus où je voulais en venir. ça m'arrive souvent.
Là, simplement, donc, c'est des textes joués. Est-ce que tu penses que l'émotion produite en fait par le jeu, puisque vous incarnez en fait aussi les textes, produisent un ressentiment différent par rapport à la lecture ? Est-ce que l'émotion va amener aussi, bah, on parlait de grille tout à l'heure, peut-être un élément supplémentaire
Ah ben oui, pour le coup, moi c'est aussi pour ça qu'on fait du théâtre. C'est vrai qu'on écrit, on est auteur pour plusieurs à la Gîte. L'outil livre, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. On aime lire, on aime se renseigner. Mais c'est vrai que l'incarnation, un acteur, quand on met un acteur au plateau, on peut avoir 10 acteurs différents et ce que le public percevra, ce sera 10 fois quelque chose de différent. Donc moi, j'ai une équipe assez magnifique d'acteurs qui portent et qui intègrent vraiment les choses, qui intègrent l'émotion et qui ont tendance à faire passer les choses d'une manière très douce et surtout d'inviter les gens à venir avec eux. Je suis assez fière des acteurs qui jouent dans ce spectacle et de leur manière de toujours partager.
D'ailleurs, est-ce que c'est perceptible ? Est-ce que vous ressentez en le jouant l'émotion en fait et vous arrivez à l'accompagner à partir du moment où vous ressentez en fait
C'est perceptible de l'intérieur ?
Ouais.
Vous voulez dire. Ah oui. Quand on a aussi monté dans la scéno, une manière d'être assez proche du public, on a fabriqué des gradins pour cette scénographie. Qui se mettent en rond presque autour de la bascule pour que le public soit assez proche. Et c'est vrai que ça, en répétition, j'ai assez vite vu que beaucoup de choses allaient m'échapper. Parce que tant que le public ne serait pas là, il y aurait des choses que je n'aurais pas. Et que quand il allait arriver, j'aurais une nouvelle lecture du spectacle. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ça, c'est un peu ce qu'on fabrique ces dernières années à la Gîte. Pour vous dire pourquoi on a monté, et si je regarde le monde au fond de mes yeux, c'est qu'on tourne depuis maintenant 3 ans le spectacle. Nous étions debout et nous ne le savions pas, qui est un spectacle écrit par Catherine Zambon,
ouais.
Qui est sur les engagements citoyens, les zones à défendre, les ZAD. Et on est 7 comédiens, on porte ces textes, qui sont des textes effectivement à la première personne, de gens plus différents les uns que les autres, qui sont allés vers l'engagement, chacun pour une raison très différente, soit parce qu'un aéroport allait se construire au bout de leur chemin, ou même sur leur maison, soit parce que c'était des gens qui avaient envie d'être dans l'engagement. Et c'est vrai qu'on a découvert aussi, entre guillemets, parce qu'il y a eu d'autres spectacles à la Gîte qui avaient un peu ce mode-là, mais on a découvert ce rapport au public d'être le plus proche possible. Que des yeux nous amènent à jouer autrement, choper un regard là sur un banc à côté de nous va nous amener à raconter les choses autrement, d'avoir un public qui sera avec nous, ça va nous amener à peut-être plus de douceur, un public contre nous, à un peu plus de revendications. Et c'est vrai que je trouve ça très très riche dans le travail.
C'est une de mes questions. J'ai l'impression que le monde artistique souhaitait de nouveau un peu se repositionner dans le monde. Et là, c'est un peu ce que tu es en train de dire.
J'espère.
Tu recherches.
J'espère, en fait. Moi, je recherche la connexion.
Ouais, enfin, voilà, c'est
oui,
ça.
Mais ça, c'est sûr.
Tu penses qu'elle avait été un peu cassée ou ça s'était un peu éloigné, même si toi, tu fais quand même un théâtre forum très quand même ancré
dans
le réel.
Pas que. Moi, parfois, j'aime le quatrième mur. Je peux aimer le quatrième mur. Si j'ai l'impression que le public peut continuer à se sentir concerné. J'aime pas particulièrement la frontière. Après, je respecte vraiment les gens qui font cette frontière. On peut aussi avoir un propos très engageant en ayant cette frontière du quatrième mur. Ça, j'en suis persuadée. Et puis, beaucoup d'auteurs, même beaucoup moins contemporains, avaient déjà cet engagement. Aujourd'hui, je sens juste que les gens ont besoin de se reconnecter, d'être ensemble. Nous, on l'a senti, en tout cas. Je ne vais pas trop parler pour les autres, mais nous, on l'a senti. Cette impression que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a même enlevé les murs du chapiteau qui nous accompagnent pour se mettre vraiment dehors, essayer d'être de rendre de plus en plus poreux ce rapport comédien. Pour vous dire, entre les scènes qu'on joue, on se met dans le public, on est avec le public. Et moi, ce que j'ai demandé à tous les comédiens, c'est de rester au maximum dans l'écoute, de continuer à être ému et à être accompagnant quand c'est pas nous qui jouons. Ouais. Voilà. Parce que on est public, on est acteur, on aimerait bien, on peut même proposer au public d'être acteur par moment. C'est pas forcément un théâtre forum, mais peut-être que ça s'oriente un peu plus vers ça, oui.
Qu'à d'être porté par le moment, quoi, l'émotion du moment, oui. Quoi. Donc c'est vrai que tout à l'heure on parlait de portraits de femmes, tu as cité Catherine Zambon, je pense également à Nathalie Masseglia, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et je voulais savoir, toi en fait, quand tu te regardais dans un miroir, parce qu'on regarde, on parle du regard depuis tout à l'heure, quand tu te regardes dans un miroir, je voulais savoir ce que tu pensais en fait, ce que tu voyais en fait, très sincèrement, quelle image, quelle description mentale tu te faisais de toi-même.
Waouh, quelle description mentale. Moi, j'ai un chemin particulier. J'ai commencé le théâtre dans la compagnie de mes parents. J'ai rejoint la compagnie de mes parents. Aujourd'hui, je suis directrice artistique depuis 2 ans. Si c'est par exemple de la condition mentale au niveau déjà professionnel, c'est vrai que pour moi, je gravite aujourd'hui. J'ai les pieds un peu dans les sables mouvants, à pas tellement savoir qu'est-ce que j'ai envie d'être. Là-dessus, sur ce plan-là, sur ce plan professionnel. Je crois que j'ai pas envie d'être avec un grand accent circonflexe. J'ai envie d'inviter, j'ai envie qu'on soit plusieurs, j'ai envie de collectif, j'ai envie de faire exister toutes les identités de la compagnie et de la troupe, entre guillemets. Après, moi, quand je me regarde dans la glace, ouais. Je me vois maman, je suis une maman, je me vois femme, j'ai envie d'exister, j'ai envie de faire exister les autres. J'ai l'impression d'avoir envie d'un vivre ensemble beaucoup plus ouvert.
Oui, d'autant que l'exemple que tu as, tu parlais de ta famille, c'est quand même des personnes, tous et toutes, liées à l'univers artistique.
C'est ça.
Comédiens, comédiennes.
Musiciens, réalisatrices. Ouais.
Donc je pense qu'il y a... une matière quand même qui est là, je sais pas.
Une matière à la troupe.
Voilà, c'est ça, ton enfance. Est-ce que c'était une enfance commune ? Mais en tout cas, je pense que tu as été sensibilisé un peu rapidement à cette idée. Parler de vent, moi j'ai un peu cette image-là, tu as retiré les murs un peu pour le vent. Et je pense que voilà, c'est peut-être. Je sais pas. La connaissance du vent.
Oui. Alors le vent, c'est drôle parce que c'est quand on a travaillé en chapiteau. Moi, j'avoue que c'est la seule chose dont j'ai le plus peur.
Ok.
Quand je me souviens justement à 15 ans d'avoir sous un petit chapiteau avec des petits poteaux de tours, à voir avec tout le reste de la troupe tenu chacun un poteau parce que les poteaux partaient comme des fusées à cause du vent, c'était assez impressionnant. Donc, oui, de s'ouvrir au vent, peut-être ne pas lutter contre le vent, ça amène moins de danger, ça c'est sûr. Après, le côté troupe, le côté famille fainéant, entre guillemets, avec...
Ça peut être aussi un héritage un peu
c'est
pesant.
C'est un héritage peut-être un peu pesant. Moi, je crois que je m'en affranchis par, justement, je vous disais qu'on était une famille d'artistes. Ma sœur est réalisatrice, a réalisé un film qui s'appelle Les Ogres en 2016. Et dans ce film, mon père dit... je joue dedans. Mon père, ma mère, une partie de la troupe. Ouais. Et il y a eu aussi des acteurs plus cinéma qui ont été invités, comme Adèle Haenel, Marc Barbet, Lola Dueñas. Mais c'est vrai que dans ce film, à un moment donné, je me dispute très fort avec mon père. À un moment donné, vous entendrez le début de la dispute, on vous enverra le début de la dispute. mais à la fin de la dispute, mon père me dit quelque chose, parce que je lui dis « mais moi, je veux jouer ». Et puis et je lui dis qu'il faudrait virer quelqu'un qui a fait plein de conneries. Et il me dit, mais c'est ma compagnie, et puis c'est pas vrai qu'on aime les gens si on n'est pas capable de se trimballer la merde qui va avec. Et je crois que ça, c'est pour moi la phrase du film, parce que c'est quelque chose qui a caractérisé mon père, ma mère, sur des années, c'est que la famille fainéant, ça voulait pas dire grand-chose. La famille élargie, ça veut dire beaucoup plus. Voilà, c'est ces gens qui ont gravité autour de nous, c'est nos oncles, nos tantes, de manière imagée, nos oncles, nos tantes, notre famille, nos amis. Et ça a autant d'importance que la famille de sang.
Nucléaire, voilà. Oui, la famille, c'est aussi ce qu'on en fait. Oui,
c'est
mais,
ça.
Mais ce qu'on peut faire, c'est écouter tout de suite l'extrait, comme ça.
Oui, on peut.
On est à fond, on est raccord. Allez, c'est parti.
Mais j'en ai marre! C'est une histoire de famille ou quoi ici?
Mais oui, c'est une histoire de famille! Et alors? Qu'est-ce que ça peut te foutre que ce soit une histoire de famille?
Ben nous, nous venons ici pour bosser. Alors si on ne peut pas bosser, dites-le nous.
Ah, tu peux pas bosser? Et pourquoi tu peux pas bosser?
Mais parce que vous êtes dans une histoire de famille. Mon père, ma fille.
Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Complètement d'accord?
Ah oui! Et c'est moi qui ai lâché Gisèle? Merde! Je vous emmerde! Mais vous êtes tous une bande de gros connards là! Putain! Mais elle, elle va baiser avec un tel! C'est facile, c'est la famille! Lui, t'es pas capable de le prendre entre quatre yeux, putain, de lui dire qu'il fait des conneries! Et cette espèce de sale con, il vient me dire que c'est de ma faute!
Meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci, così frenetico l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci, così frenetico l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci.
Ça doit te rappeler plein de souvenirs.
Voilà, je crie pas si fort si souvent. Mais c'est, j'avais demandé donc qu'on enchaîne ces deux extraits parce que, entre guillemets, ils ont un petit peu les mêmes sources dans le film. Il y a cette engueulade, ces engueulades qui prennent une place folle, qui sont toujours sur la place publique avec tout le monde. Ou, enfin voilà, ça peut partir comme ça. Effectivement, est suivi d'une musique qui accompagne une bagarre de couscous à la suite d'une engueulade aussi. Donc, et puis c'est une musique du film que j'aime beaucoup parce qu'elle est très enlevée. Voilà.
Donc, ouais, c'est vrai qu'on parlait du vent. Moi, tu vois, en en parlant, ça me faisait penser à Anne Sylvestre, la fille du vent. Et ça me fait penser aussi à un autre texte, en fait, d'un rappeur qui s'appelle Fab.
Ouais.
Un vieux rappeur de Barbès, de la Secret Connection. Dans un de ses textes, toujours sur cette idée de regard, il écrivait « Excusez-nous si on se répète, mais quand on regarde à la fenêtre, on voit dans celle d'en face qui reflète l'image du voisin, qu'il regarde chez nous. Alors excusez-nous si quand on regarde ailleurs, on voit que nous. » Alors évidemment, le texte, il parle des ghettos et de l'impossibilité à l'anonymat quand on est stigmatisé en permanence. Quand on regarde ailleurs et qu'on est épié également, on a toujours le sentiment d'être suspect et qu'on est ramené un peu à un autre commun et qu'on est essentialisé. Dans ton texte, tu parles aussi de l'étranger.
Oui, ça me parle.
Ouais,
oui, ça... oui. C'est vrai que à la GIT, on a changé notre itinérance. C'est difficile de dire « on » parce qu'à l'époque, c'était vraiment mon père, pour le coup. J'étais beaucoup trop petite. Et ils ont d'abord décidé, dans la troupe, d'avoir une itinérance très large, en se disant qu'ils voulaient amener un théâtre aux endroits où il n'y avait pas cette offre-là. Et au fur et à mesure du temps, ils se sont rendus compte que c'était pas, il y avait pas besoin d'aller très loin, en fait. Que même dans l'environnement juste de la métropole toulousain, il y avait énormément d'endroits où il n'y avait pas d'accès à la culture, accès au spectacle, accès à cette fête aussi.
Il suffit de s'éloigner du centre-ville, en fait.
Voilà. et donc, la GIT a commencé en 96 par aller dans le quartier du Mirail, à commencer des projets avec la Mounaide, à rencontrer le président de la GIT, Jean-François Brunel, qui s'occupait de la Mounaide à l'époque, et à se rendre compte que cette itinérance, elle pouvait aussi être une itinérance de quartier. Et en 98 ou 99, on a commencé à s'installer sur le quartier d'Ampalo. Et à y faire énormément de rencontres, de partenaires sur le quartier, d'associations qui essayaient déjà de remettre en question cette ghettoisation, ce regard et le fait de mettre loin ce qu'on n'avait pas envie de voir. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est des choses qu'on aborde à plusieurs reprises dans le spectacle, et c'est des choses qu'on aborde, je veux dire, physiquement. En ce moment, on est en train de... Moi, là, je suis arrivée en salopette. Non, j'ai pas ma salopette, j'ai mon pantalon. Parce qu'on est en train de monter le chapiteau sur la friche de l'ancienne place commerciale, qu'on sait que même si on vient qu'une fois par an ou tous les deux ans sur ce quartier-là, il y a toute une partie des gens pour laquelle on fait partie des murs. Alors qu'on n'a pas vraiment de mur, mais on fait quand même partie des murs. Et on avait aussi envie de questionner ça, voilà, de questionner ce rapport, ce regard qu'on peut porter sur les gens là-bas, ceux qui peuvent porter, enfin voilà, être ensemble et puis arrêter de se regarder en chien de fusil.
Ouais, parce que comme tu le disais, en Palo, c'est un quartier... Alors, je ne sais pas quand il est sorti de terre, mais effectivement, on est loin du centre-ville.
Pas si loin, non, justement. C'est un des quartiers qui reste assez proche.
On est, du bon côté de la rocade.
Oui, c'est ça. on est quand même à l'intérieur.
On est à l'intérieur.
C'est ouais. ça, c'est, on est sur le périph' intérieur.
Mais il y a des bars HLM. Oui. Enfin, voilà, j'imagine qu'à l'époque, c'était un rêve de mixité sociale, un espèce de projet comme ça.
Sûrement. Ouais. Alors, aujourd'hui, il y a des nouvelles constructions pour essayer justement de faire venir des gens du centre-ville un petit peu plus, projet de réhabilitation de l'espace, etc. Je pense que les bâtiments en avaient besoin. Après, qu'il faut continuer à être dans la recherche de mixité et pas comme pas une recherche de remplacement, ça me paraît évident. Et j'espère qu'on s'emploie à faire les choses de la bonne manière.
Oui, parce que c'est des zones oubliées par la culture. C'est vrai que c'est les gens dorment exclusivement là-bas et après vont travailler, en fait.
Oui, alors plus ça va, plus il y a des, voilà, il y a le centre culturel de quartier, la MJC, qui font tout un travail pour essayer de donner accès, de faire de la programmation. Mais c'est vrai que toute initiative, notamment en extérieur, dans ce genre d'endroit, c'est très bien parce que pousser la porte d'un théâtre, c'est pas si facile. Quand on a un théâtre qui vient se mettre à l'endroit où on passe pour aller promener le chien, ben, peut-être que il y a quelque chose qui va nous amener à aller un peu plus facilement écouter.
Ouais, accessible.
Voilà. Et nous, on est assez contents cette année parce qu'on propose donc le spectacle ici, qui va se jouer en extérieur. On va fermer le site, mais c'est sur entrée libre, hein, y a pas de problème. C'est juste pour pouvoir jauger les spectacles, parce que par contre, on n'a pas assez de place pour avoir trop de monde. Donc, on va fermer le site, mais on a donc le spectacle ici et un spectacle qui vient de Marseille, Compagnie L'Entreprise, qui s'appelle Le Rouge Éternel des Coquelicots, qui aura lieu le samedi soir à 20h. Et c'est Catherine Germain et Françoise Cervantes qui sont partis collecter le témoignage d'une femme dont le snack allait être détruit dans le quartier du Merlan à Marseille.
Okay.
Et voilà, on est sur la friche d'une ancienne place commerciale. Il va y avoir des nouveaux bâtiments d'habitation qui vont grimper, une nouvelle place commerciale fabriquée plus loin, mais pas du tout sur le même mode. Qu'est-ce que ça raconte aux habitants? On est très heureux d'accueillir l'entreprise pour qu'elle vienne aussi raconter à la première personne cette histoire. Même si c'est ailleurs, même si c'est un autre fonctionnement, ça raconte peut-être un petit peu il y a des liens.
Ouais, il y a malheureusement des similitudes dans la gentrification et Marseille subit en permanence aussi la gentrification, clairement avec tous les quartiers pauvres, populaires.
Oui.
Donc pour Essie, quand tu regardes l'autre, l'étranger, le fou, l'écolo, celui qui se dit qu'on s'en fout, en fait l'autre c'est un peu soi-même. C'est un peu toi.
Toujours, moi je crois que c'est important d'en être conscient, que l'autre, de toute manière, peut toujours être soi-même, qu'il faut qu'on éduque nos regards, parce que voilà, c'est le regard qu'on pose sur l'autre qui pose souvent un problème. C'est la manière dont... C'est à partir du moment où on regarde l'autre comme s'il n'était pas comme nous, on va trouver des moyens de le trouver différent. Enfin, on va continuer, on va...
On a tous les prétextes.
Voilà, on a tous les prétextes à ne pas avoir envie d'aller le rencontrer, à ne pas avoir envie de le comprendre, à ne pas avoir envie de savoir qui il est, par quoi il est passé. Il y a... Je sais plus, j'avais lu une petite BD... où c'était quelqu'un qui demandait à sa maman devant la télé pourquoi à chaque fois qu'ils disent il y a eu tant de morts, ils disent quand c'est des Français ou quand c'est pas des Français. Et puis la maman qui lui répond c'est pour savoir si on s'en fout ou pas. Voilà, bon, ça me semble symptomatique de commencer à se poser les questions autrement, ça vaut le coup.
Et donc. Quand tu étais venu, tu avais parlé de la vallée de la Roya, et là, en termes de regard sur l'autre, l'étranger, la personne différente, mais là, c'est vraiment symbolique de ce lieu, avec aussi des prises de position différentes de la vallée, les gens qui vont accepter ou pas, enfin, en tout cas, ça bouleverse complètement. Oui, oui.
Complètement des petits endroits comme celui-là, en tout cas, où tout le monde se connaît, où tout le monde sait.
Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un endroit stratégique. Dans les Alpes maritimes, maritimes à la frontière italienne. Et il y a c'est un lieu de passage en fait, des migrations vers le début de l'Europe en fait.
C'est une vallée transfrontalière qui a des frontières italiennes un peu partout, sauf à un petit endroit par une petite route.
Bon, la plupart du temps, c'est des migrants subsahariens.
La plupart du temps. Voilà, des gens qui arrivent d'Érythrée, du Soudan, du Tchad, de Syrie. Il y a quand même. Enfin, de Syrie, pas plus que. Un peu moins, peut-être.
Et t'en avais parlé.
Ça, c'est un des textes. C'est un des textes que j'ai écrit dans le spectacle. Parce que, justement, encore en famille, avec ma sœur en 2017, on a eu, Léa avait un projet autour de cette crise migratoire, un projet de film, et on s'est dit on va aller voir, on va prendre la voiture et puis on va aller y passer du temps. Et on a été incroyablement bien accueillis par plein de gens sur le coin, et ils étaient vraiment au milieu de cette crise migratoire, c'est-à-dire qu'ils venaient de faire un peu exploser justement le secret. Un an avant, avaient commencé à arriver des gens sur le bord de la route, parce que c'est vraiment une toute petite vallée. Il y a un fleuve, une rivière au milieu qui s'appelle la Roya. Bon, vous en avez peut-être entendu parler depuis la tempête Alex aussi, parce qu'il se passe pas mal de choses là-bas. Et des montagnes qui montent très très vite. Des petits villages, et vraiment pas mal de gens qui vivent dans des maisons où on a besoin de 45 minutes à pied pour y aller. Énormément de système D, énormément d'entraide dans le fonctionnement. Dans ce genre d'endroit, il y a toujours ça.
Bien sûr, la montagne.
C'est ça, la montagne. Et quand on est arrivé, il y avait déjà eu cette première phase d'accueil qui était de voir les gens se dire est-ce que je les laisse là ou est-ce que je les ramène chez moi, qu'est-ce que je fais alors que c'est interdit, je sais que c'est interdit. Moi, les gens que j'ai rencontrés, les uns et les autres, il y en a eu énormément, avaient tous une notion de l'accueil différente, et j'ai décidé d'écrire le témoignage de Nathalie Masseglia qui me semblait bien rassembler et raconter et laisser la place à toutes ces notions.
Elle est comédienne, clown.
Elle est clown comédienne. Et elle a d'ailleurs travaillé avec nous sur le spectacle en étant regard extérieur rue, parce qu'elle fait beaucoup de rue. Elle a un clown qui s'appelle Mazarine. Et ils nous ont accueillis avec l'AMACA de la Roya en résidence de semaine au mois d'août. L'AMACA, c'est une AMAP culturelle. Okay. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Non,
c'est
les AMAP, oui.
Alors, on ne prend pas un comédien dans son panier. Mais ce n'est pas ça. L'idée, c'est d'essayer de chacun mettre un petit peu d'argent ou un petit peu de moyens humains ou un petit peu d'énergie, tout simplement, pour faire venir des équipes, avoir des spectacles qui se jouent dans la vallée. Si financièrement ou pas, donc c'est une association qui décide, à part les habitants, de faire venir des spectacles. voilà, et de monter des spectacles. Et donc ils nous ont fait venir deux semaines, ils nous ont accueillis dans un endroit magnifique qui s'appelait la Madone du Mont. Une ancienne chapelle un peu désaffectée dans laquelle il y avait des chauves-souris endémiques, des milliers de chauves-souris tous les soirs, où on a monté nos gradins en bas de la montagne dans un champ d'oliviers. Et on a continué à écrire ce spectacle pendant deux semaines, à écrire sa scénographie, sa manière d'être habité. Et au bout de 15 jours, moi, j'étais très anxieuse parce que on avait une présentation de travail devant les gens qu'on avait rencontrés depuis que j'ai été voir plusieurs fois. Et j'étais vraiment très émue par leur retour, par leur perception de ces textes. Parce que même si le témoignage de Nathalie, il allait dans un sens, dans le sens de Nathalie, évidemment, qui, elle, a fait partie de ceux qui ont voulu médiatiser.
Ouais.
Parce qu'ils étaient trop sous l'eau, il y avait trop de monde. Ils n'arrivaient plus à cacher, ils n'arrivaient plus à... Donc ils ont essayé avec Cédric, notamment Cédric Héroux.
Puis il y a eu des problèmes aussi avec la police. Enfin, ça a débordé le simple cadre de... Enfin, il y a effectivement de logistique.
Oui, il y a eu beaucoup de procès.
Il y a eu des procès, des perquises, des gardes à vue. Donc là, je pense que la médiatisation au moment est peut-être essentielle aussi.
Oui, après, c'est sûr que ça pose question. C'est dans tous les débats, dans toutes les manières de faire. Certains préféraient essayer d'accueillir une à deux personnes, essayer de bien les accueillir, de les aider, de les aider dans le parcours. Sauf que ça pouvait pour certains, et ça a été très très bien que ce soit fait. Mais par exemple, pour Cédric Héroux, qui, à un moment donné, il y avait 80 personnes, ouais, voire 200 personnes chez lui. Je ne sais pas, chez lui, j'y ai été plusieurs fois. C'est une petite maison de 30 mètres carrés, en haut d'une montagne. On y va aussi, on y accède à pied. Et c'était des tentes un peu partout. Comment on fait pour gérer, avec des dons de nourriture, pour que chacun puisse se faire à manger, pour que chacun puisse aller aux toilettes, pour que chacun puisse avoir... voilà. Donc là, c'était plus possible. Pour certains, c'était plus possible, et donc il a fallu qu'ils médiatisent. Mais donc le retour des personnes qui, justement, n'étaient pas dans la même ligne de pensée que Nathalie ou que Cédric, a quand même été assez beau, parce que je me souviens d'un retour notamment qui était de... C'est quand même très, très important de savoir qu'on peut raconter. Qu'on peut raconter, qu'on peut dire, et que ça peut être entendu. Parce que c'est pas du tout des gens qui se prennent pour des héros. C'est vraiment des gens qui ont fabriqué avec ce qui se passait. Oui. Mais ça a été tellement dur. Et puis ça l'est encore. Hein. Sauf que ils sont bloqués avant maintenant. Donc c'est encore autre chose. Ça a été tellement dur de ce que ça a fabriqué entre eux, en eux. Essayer de tout le temps être au bon endroit, sauf qu'il n'y a pas de bon endroit. Et qu'il y a et beaucoup de fierté et beaucoup de culpabilité par rapport à beaucoup d'actions et beaucoup de manières de fonctionner. De savoir qu'on pouvait raconter et qu'on pouvait en débattre. Moi, voilà, j'étais assez touchée par ce retour-là d'une personne qui s'appelle Suzelle, que j'ai rencontrée là-bas. Voilà. Mais quoi vous dire de plus? Je suis un peu...
Mais c'est vrai que c'est des tout petits traits d'union. Je comprends que ça soit aussi l'école de l'humilité. Enfin, je veux dire, même dans l'aide, on sait que... Enfin, je veux dire, tout ce qui se passe à côté, derrière, enfin, je veux dire, ce sera forcément quelque chose de minime, mais tellement important pour la personne concernée, en fait.
Oui.
C'est cet équilibre aussi qu'il faut...
Non, et puis dans accepter. L'aide, quand on commence à aider, on a toujours l'impression de jamais en faire assez, mais de toute manière, quoi qu'on fasse, c'est important. C'est, je crois qu'il faut quand même se dire ça, parce que je pense que ça rebute énormément de gens, l'idée d'être aidant aussi, parce que on a peur de mettre la main dans un engrenage qu'on va pas lui, de plus avoir sa vie de famille, de plus avoir, effectivement ça peut, mais on peut aussi jauger, trouver les solutions pour faire au moins dans ses capacités.
Donc au fond de ce regard, il y a l'autre. Et l'étranger. Et il y a également le fou. Alors, je voulais savoir pourquoi tu avais mis ce mot et que ça t'évoquait la folie.
Alors, la folie, je sais que c'est un mot un peu trop large.
Ouais.
Mais le spectacle, bah ça, si vous venez le voir, vous verrez.
Ouais,
samedi. Bah, en fait, moi, je sens que toutes ces problématiques qu'on ouvre, toutes ces problématiques d'exclusion qu'on ouvre pendant à peu près, on va dire, 90% du spectacle, ça amène un petit peu à la maladie du siècle, quoi. En fait, on devient fou. À un moment donné, on devient tous fous de plus savoir comment réagir, de plus savoir comment être, de plus... De plus se retrouver, de plus... Et il y a aussi une explosion à la fin de ce spectacle qui est un délire, qui est le délire d'une des personnes qui a écrit. Et ce délire, ça, moi, ça me questionnait sur beaucoup de choses, sur... souvent, c'est la résultante aussi. Du moment où on ne sait plus, où on ne sait plus quoi faire, en fait. Quand on ne sait plus quoi faire, quand on s'inquiète pour le monde, quand on s'inquiète, quelle est la résultante, en fait. Soit on met la tête dans la terre, on attend que ça passe, soit on se fout en l'air, soit on essaye de chercher ailleurs quelque chose qui nous soulage, quoi. Cette manière de délirer ou de décompenser ou de... Elle me semble être un peu des choses, des résultantes, en fait. Et pour moi, ça interroge toujours le regard qu'on porte sur les gens qui peuvent être en marge. De toute manière, la marge, c'est l'autre.
Enfin, et qu'on fait, oui, c'est toujours
voilà,
l'autre.
C'est toujours l'autre, c'est jamais nous.
Et puis qu'on met à distance.
C'est ça.
Voilà, et puis qu'on fait en sorte
d'exclure.
Et de les invisibiliser toujours un peu plus. Bon, je pense qu'avant de décompenser, de basculer dans la folie, il existe heureusement des réponses. Et des possibilités d'action. On peut s'écouter un peu de musique.
Ah bah peut-être Mangabé, parce que c'est le créateur sonore du spectacle. Il s'appelle, ça vous dira peut-être quelque chose, il s'appelle José Fener aussi de son vrai nom.
Voilà. Ça me dit quelque chose, le nom de famille me dit quelque chose.
Et il est DJ et il nous fait des musiques de spectacle gentiment.
En fait, c'est dans le jeu des sept familles, ça c'est le frère. C'est
ça c'est le frère, c'est le petit
frère.
C'est la
carte dans la famille, je souhaiterais le frère. Donc
c'est ça.
C'est ce qu'on va entendre, le petit frère. Ouais.
C'est bien ça.
Thank you.
Voilà, donc le petit frère.
Ouais.
Le petit frère.
C'est ça.
Dans la place, quoi.
C'est le petit frère qui a commencé par une formation de pianiste et puis qui s'est lancé dans la musique électronique à 18-19 ans.
Avec d'autres types de claviers et de consoles.
Ouais, ouais. Il n'arrête pas. Il est dans un, je crois qu'on dit, un label qui s'appelle Cracky Records et qui marche bien. Donc, il joue beaucoup.
Cool. Donc, je continue donc, à te citer. L'urgence d'une démarche politique active, militante, constructive nous ramène au plateau, au commun, l'expression d'une inflexion commune dans un contexte collectif, la famille, la troupe, le quartier, le village. Donc la réponse un peu à la politique institutionnelle, ça pourrait être la mise en marche du militantisme. Et pour citer Catherine Zambon, dont on a parlé tout à l'heure, cela fera de toi un sympathisant, sympathisante, voire un opposant, opposante. Certains diront un résistant, résistante. Donc peut-être que le militantisme, voilà, c'est une des réponses.
Bah, j'ai quand même l'impression, oui, aujourd'hui, que c'est une des réponses. C'est en tout cas, dans les lieux militants qu'on a beaucoup visités avec le spectacle Nous étions debout, en fait, on sent de l'espoir. C'est clair qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits où on sent vraiment de l'espoir sur le monde, même si c'est des gens qui, justement, n'en peuvent plus et ont décidé de... Enfin, en tout cas, sur les ZAD, notamment, ont décidé de s'engager par rapport à quelque chose et qui va vraiment poser souci. Bizarrement, dans ces endroits-là, on sent de l'espoir parce qu'il y a l'ensemble, quoi.
Oui, parce que tu reconstruis, en fait, complètement.
Oui. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que de reconstruire.
D'autant que tu donnes ton temps total. Enfin, oui, sur les ZAD, tu y passes ton temps.
C'est ça. C'est ça. Et puis, l'idée de fabriquer d'autres modèles, de déconstruire, comme tu disais tout à l'heure. De déconstruire, ça veut dire reconstruire, ça veut dire réimaginer, rebattre les cartes.
Et de résister. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser le mot résister. Et simplement, tu parles de démarche constructive. Je voulais savoir ce que tu pouvais entendre par une démarche non constructive, en fait.
Les démarches militantes ?
Oui.
Non.
Sur le texte.
Ah, ben, bah, c'est que des fois... alors là, pardon, en enlevant... J'ai dû écrire ça il y a au moins 2 ans et demi. Pardon.
Alors, il y a 2 ans et demi, non, à quoi tu pensais ?
des fois, les démarches, elles peuvent ne pas être constructives. Ça, on peut avoir envie de tout faire péter. L'idée de... Pour moi, c'est pas... C'est constructif de discuter. Voilà. Peut-être, mais d'asséner des grandes vérités, justement, pourrait ne pas être constructif selon moi. Parce que ça fermerait. Mais bon, après, ça, c'est ma manière de penser le militantisme. Peut-être que c'est pas la bonne, hein. Je dis pas. J'ai pas la science. Je sais pas exactement comment militer. On cherche, en fait. Tout le monde cherche.
C'est ce que tu disais tout à l'heure, de pas arriver en colon, quoi, quelque part, avec la pensée.
C'est ça.
Ouais, académique.
C'est ça, ça me semble vraiment justement le moins constructif pour faire ensemble. Parce que sinon, on se met à dos les gens et on va rien construire ensemble.
Tu cites aussi Edgar Morin. Justement, il parle de « préparez-vous ». Donc à accompagner, donc là c'est l'idée d'être ensemble, l'improbable, s'il survient, soyez des îlots de positivité.
Voilà.
Il a 101 ans.
Oui, et c'est vrai que je trouvais cette phrase très très belle parce que préparez-vous à accompagner l'improbable s'il survient. Aujourd'hui, on imagine tous ce que ça veut dire, voilà, l'improbable. Les choses auxquelles on n'a pas cru depuis toujours, on n'a pas cru que ça pouvait péter, qu'on allait en arriver là.
Il nous reste 4 ans, c'est ça, d'après le rapport du GIEC.
Voilà, mais préparez-vous à, en étant des îlots de positivité. Moi, je trouve que cette phrase est très belle parce que on peut faire que ça. Sinon, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se met la tête dans la terre. Et hier, j'ai rencontré des lycéens du lycée Berthelot qui sont venus voir ici et qui me disaient « Mais là, nous, c'est très compliqué, vous nous parlez écologie, mais aujourd'hui, tout le monde nous parle écologie, tout le monde nous dit que c'est foutu et qu'on nous fait confiance maintenant pour remonter tout ça. » Et en fait, on est paralysé, on a peur, en fait, on commence à avoir peur. Et je trouve très important de continuer à parler du positif, de comment peut-être on trouvera peut-être des petites solutions, même si elles sont pas grosses, comment on va décroître quand même de toute manière. C'est aussi Mouchkine qui le disait. Elle a écrit ça justement après, sur l'après-Covid. Quand même, dites à nos jeunes que ça va être beau. Enfin, je ne sais pas comment elle le disait, mais il y a une très très belle phrase qu'elle a écrite justement qui a pas mal tourné. Dites-leur que c'est le début de quelque chose et pas la fin, parce que sinon, on va où si on dit aux gamins que c'est la fin de tout? C'est.
Ouais, mais souvent, c'est les responsables en fait de la situation qui.
Voilà.
Qui sont obligés de transmettre l'espoir. Donc,
oui,
c'est un peu
difficile. Je crois qu'il faut transmettre de l'espoir parce qu'on peut pas se dire qu'il y en a plus, sinon, on va tous se foutre en l'air et puis stop, quoi. Évidemment, peut-être qu'il y en a plus. Je sais pas comment dire, mais on va. Je pense que les choses qui se passent aujourd'hui, en ce moment, vont nous obliger à décroître. Peut-être qu'il y aura un rebond, on va taper au pied de la piscine, quoi.
Parmi les réponses, donc, il y avait le militantisme, peut-être aussi la famille. Pourquoi ne pas commencer par un petit cercle qui s'étendrait? On en a un petit peu parlé, surtout avec ta famille, même si c'est peut-être un peu difficile parfois de trouver sa place. On a évoqué la famille un peu plus large, donc la troupe, la vie collective, et ce qui n'est pas non plus toujours facile. Parce que voilà, c'est plein de contradictions, d'ambivalence.
C'est très beau et très dur.
Voilà, comme disait ta sœur. et ça, voilà, ça m'a évoqué en fait une petite réflexion autour de la porosité travail-famille, puisque c'est tout à fait ce que tu vis, mais un petit peu différemment sur le capitalisme en fait, qui récupère tout, qui digère tout, et notamment un peu ce dernier bastion, je trouve, avec le télétravail. Sur l'idée que ton lieu de vie devient ton lieu de travail. Parce qu'en fait, on est toujours au travail. Si chez soi, on est au travail.
Oui.
On ne s'extrait jamais en fait, de l'univers de son travail.
Oui, bah, ça,
donc,
c'est sûr.
Donc toi, c'est ce que tu vis de manière plutôt positive, parce que c'est le phénomène aussi de la troupe, etc.
Je le vis de manière positive, mais même... après, nous, on a tous... on s'est sédentarisés d'une certaine manière. On ne vit plus ensemble. On vit ensemble que sur les temps de festival. Mais par contre, effectivement... c'est difficile de se dire qu'on a des horaires de travail. Ça, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Le fait de ne pas répondre au téléphone, même si c'est 2h du matin, je suis pas trop capable. Mais donc on a un petit peu tous nos maisons. C'est très pour eux, nous, entre les deux. Qu'est-ce que dans un... Moi, je me dis, de toute manière, quel que soit le métier, il y a besoin quand même à des moments qu'on soit ensemble. Enfin, j'ai l'impression... C'est peut-être bien de revenir chez soi, surtout si ça permet de ne pas prendre sa bagnole et de faire une heure de route. Après, c'est aussi l'obligation à avoir recours au numérique en permanence. Il y a du bon, du mauvais. Moi, je pense que tout n'est jamais complètement bon, complètement mauvais. Il faut faire un peu des deux. Peut-être que c'est comme ça. Parce que je sais que le télétravail, psychologiquement, il paraît qu'il y a énormément de gens qui le vivent très mal, parce qu'il y a énormément de solitude aussi.
Ouais, ça isole, effectivement. Ça casse les dynamiques collectives.
Parce que nous, on s'envoie plein de mails. Mais c'est vrai que si on ne fait pas une réunion pour préparer un festival, et si on se... Ben, en fait, on oubliera 15 000 trucs. Ça, c'est clair. En tout cas, je le dis dans le concret d'une troupe de théâtre. Si on fait pas une réunion avec certains qui en ont vraiment rien à faire de renvoyer 3 mails ou d'autres et qui pourtant ont énormément de choses à dire, en fait, il faut quand même continuer à composer avec l'être humain, je crois. Le fait qu'on est tous des êtres humains, qu'on fonctionne pas tous pareil, qu'il va y en avoir peut-être qui vont avoir besoin d'aller faire du télétravail, d'être dans le microcosme un petit peu plus familial, de famille resserrée, et d'autres d'être dehors à l'air libre.
À l'air libre. En plus, je pensais au terme de cellule, moi, cellule familiale. En terme de cellule, c'est cool d'être dehors, effectivement, et de pas être dans une cellule.
C'est mieux.
Donc, c'est vrai, donc il y a le militantisme, la famille, et je me disais que l'art aussi, ça pouvait être une réponse. Et...
Sous toutes ses formes, oui.
Bah ouais.
Oui, oui.
Et que de plus en plus, donc, l'art reprend position, en fait, se repolitise, j'ai l'impression.
Mais j'entendais l'autre jour à la radio Thiago Rodriguez qui disait que de toute manière l'acte de théâtre pour lui était politique. Déjà de se mettre sur une scène, il y avait quelque chose de politique. Après on a des sujets qui le sont plus ou moins, mais se mettre en piste, se mettre en scène pour partager, un moment faire sortir les gens de chez eux pour venir tous se rassembler quelque part, c'est un acte engagé en fait de rassembler les gens. quand même quelque part. Après aujourd'hui, dans les thématiques et dans les choses qui s'écrivent aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'auteurs, de compagnies qui ont envie de travailler des thèmes qui collent à la société d'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Et puis, je pense que c'est fondamental. J'ai l'impression. Mais pour ça, il faut qu'on donne aussi toujours plus d'accès au théâtre et à ces endroits-là au plus grand nombre. Il faut qu'on essaye de, même de manière très très pragmatique, d'avoir des politiques tarifaires les plus faciles, les plus accessibles possibles. Il faut qu'on essaye de donner accès à ça. Ça me semble fondamental.
Aussi sortir des théâtres, c'est ça, que le théâtre sorte des théâtres.
Que le théâtre sorte des théâtres, ou alors qu'il invite toujours plus à venir le rejoindre. Les choses se font en accordéon. Ouais. Il y a eu donc toute cette politique de décentralisation, de mettre des théâtres un peu partout plutôt que seulement dans la capitale. Ensuite, oui, tous ces théâtres sont devenus aussi des grosses scènes qui avaient des places un peu chères et des abonnements et des fonctionnements qui amènent aussi, pas que, hein, évidemment, des habitudes de théâtre pour un certain public et pas pour le reste. Là, l'accordéon, il a quand même plus tendance à s'ouvrir, à aller chercher dans les politiques culturelles qui existent aujourd'hui. Il y a de plus en plus des appels à projets, des choses qui nous incitent à aller vers des territoires ruraux, à faire des projets de territoire avec des habitants. Ça se fait de plus en plus, et ça, c'est plutôt joyeux. Après, il y a aussi dans les types de programmation de pouvoir trouver le moyen d'avoir des choses qui concerneront tel public, d'autres choses qui en concerneront un autre. Il faut s'éduquer à aller pour parler, pour aller chercher le public. De toute manière, il ne viendra pas tout seul. Il faut continuer à aller le chercher.
Ouais, c'est un peu de l'auto-formation, comme on est censé s'auto-former dans tous les métiers.
C'est ça.
Je pense que là, c'est un peu pareil, peut-être. Et oui, toujours en lisant ce que tu écrivais, il y a la notion de corps et d'incarnation physique qui reviennent assez souvent. Mm-hmm. Notamment, bon, je lis 2-3 exemples, mais ces textes font entendre à travers les corps qu'ils habitent, les difficultés à trouver une réponse aux attaques du monde, sortir de la discussion polémique pour rentrer dans quelque chose de physique, bon, etc. J'en ai noté plusieurs. Oui. Et c'est vrai que j'entendais une fois sur France Culture un intervenant qui parlait de notions et de différences entre réfractaire et être rebelle. Mmh. Et il faisait rentrer sur l'idée d'être réfractaire une notion de résistance physique, quelque chose de physique. Oui. Alors que l'idée d'être rebelle, c'était plus du domaine de la résistance intellectuelle. Donc je voulais savoir si c'était plus du côté de l'être réfractaire ou de l'être rebelle.
Alors, je suis plus du côté de l'être rebelle, je crois, que du réfractaire, parce que pour moi, il y a quelque chose de très péjoratif dans le fait de... Mais après, je suis d'accord que c'est plus physique. Mais c'est aussi, moi, quand je parlais d'interroger justement ce rapport physique, c'est que par contre, un corps, ça nous permet justement d'illustrer physiquement ce côté réfractaire où, pour moi, quelqu'un corporellement qui va devoir me faire passer quelque chose de rebelle aura un corps beaucoup plus libre, beaucoup moins resserré, beaucoup moins tendu, beaucoup plus détendu qu'un corps réfractaire. C'est à ça qu'il nous sert, le corps aussi. Parfois, on n'a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin de mots pour qu'on sache ce que l'autre pense, ce que l'autre a envie de raconter. Et c'était de passer de l'un à l'autre. C'est vrai qu'il y a des moments où le corps va nous aider à illustrer un propos.
Alors justement, c'est un peu le dilemme entre comédienne et écrivaine, peut-être, entre le corps et l'esprit.
Alors, moi, j'écris maintenant depuis 2006 des pièces pour la compagnie, mais j'écris d'une manière assez particulière. J'ai toujours écrit pour jouer, que ce soit joué. Donc, moi, je ne fais pas trop la différence. J'ai pas une écriture très littéraire, d'ailleurs. J'ai une écriture très parlée. J'ai écrit pour les enfants, beaucoup. Et j'avais besoin de me mettre... c'est très parlé, sans être bétifiant. Hein, c'est... Donc j'ai toujours pensé au plateau au moment où j'écrivais. Donc c'est vrai que ça, j'ai pas la même notion. J'ai pas la même notion. Pour moi, quelque chose qui s'écrit, c'est quelque chose qui peut être dit. J'ai toujours eu cette impression-là, mais dans mes écritures en tout cas.
Ouais, tu te mets à hauteur, c'est ça?
Ouais. Oui, oui.
Et ça revient à ce qu'on disait au début sur la scénographie, le plongeoir et oui. Le risque, la peur, comment l'appréhender.
Oui, de pouvoir mettre le public aussi en empathie ou pas, d'ailleurs, hein, avec, avec ceux qui sont. Oulala, il m'énerve.
S'en fout,
c'est. Ouais. Ah, qui tombe. Ce serait super qu'il tombe, celui-là. Ça ferait de l'action.
mais c'est ce que tu disais justement sur le vertige.
Ouais.
Et le choix, en fait.
En fait, c'est la prise de décision. J'avais écouté un petit texte qui disait il y avait deux personnes sur un plongeoir, justement. Moi, ça fait partie des choses qui m'ont fait écrire aussi. Et il y avait le garçon qui voulait sauter, mais il n'y arrivait pas. Et puis, au bout d'un moment, la fille lui disait mais en fait, c'est quand tu t'es décidé que tes genoux se sont mis à trembler. Ça veut dire que c'est quand on a pris la décision qu'on commence parfois à avoir peur. Mais bon, c'est pas grave. Et on a pris la décision et on y va. Et peut-être des fois, ça fait encore plus peur.
C'est quand on a encore le choix, on n'a pas vraiment peur.
On n'a pas... voilà.
Alors le choix, alors c'est un peu donc l'inconnu. Une citation de Nietzsche qui explique que ramener quelque chose d'inconnu à quelque chose de connu allège, tranquillise et satisfait l'esprit et procure en outre un sentiment de puissance. Donc l'inconnu comporte le danger, l'inquiétude et le souci. Alors est-ce que explorer le choix, c'est aussi explorer le danger, l'inconnu, le souci ?
Puisque l'explorer, c'est l'apprivoiser. Je pense que le danger, justement, aujourd'hui, il y en a partout. Enfin, c'est tout. C'est le monde. C'est rester chez soi, c'est un danger pour le monde. Pas s'ouvrir, c'est un danger pour tout. Je sais pas bien comment m'exprimer là-dessus. Non, pardon, je m'écarte.
Moi, je peux faire une petite transition, ouais, mais ça m'embête si ça t'éloigne de ton cheminement de pensée.
Non, je crois que mon cheminement de pensée se perd, justement. je pars dans quelque chose et puis j'oublie un peu là où je voulais en venir.
Ça m'a évoqué le danger. Tu viens de l'univers de la littérature pour... Enfin, j'ai dit pour enfants, mais non, on dit la littérature...
Moi, c'était théâtre pour enfants.
Théâtre pour enfants. Oui. Donc, comment préserver les enfants du danger, en fait?
Je crois qu'aujourd'hui, poser la question de les préserver du danger, c'est bizarre aussi. Ouais. Je crois qu'il faut qu'on soit tous conscients ensemble des dangers. Mais se dire que si on veut préserver son précaré et juste les enfants et il faut leur apprendre à vivre avec le danger, leur apprendre à grandir avec le danger, mais le danger ça fait partie du monde autant que la joie, autant que toutes les choses positives.
Faut pas les préserver, quoi.
Non,
enfin, quand toi t'écris.
Non,
t'écris,
pour moi c'est toutes tes discussions, toutes tes réflexions. Les pièces jeunes publics que j'ai écrites, c'était autour de la famille recomposée, de toute manière on écrit quand même avec ce qu'on est, je crois, mais pour vous dire un peu moi ma manière d'écrire, c'est sur la deuxième pièce que j'ai écrite, ça s'appelait LML, des initiales LML. Et on sait pas bien si c'est Léon qui aime Lucie ou Lucie qui aime Léon.
Okay.
C'était ma fille de 7 ans, je venais de me séparer de son père, elle est venue me voir en me disant « Maman, pourquoi t'as décidé d'être heureuse et qu'on est tous malheureux ?»
Ça m'a mis un coup
quand même. Et là, je me suis dit que justement, tout n'était pas simple, tout n'était pas blanc, noir, les choses étaient grises, que je pouvais même pas le lui raconter, je n'avais pas de réponse. Donc j'ai décidé de lui écrire une pièce. Qui interroge justement la mise en danger, je pense, parce que moi, ce que je lui ai expliqué avec cette pièce, c'est que les réponses à ses doutes et à ses peurs et à ses tristesses, c'était des choses qu'elle découvrirait chez elle en grandissant. Et que le danger, moi j'étais maman et j'exposais ma fille à une douleur qu'elle avait jamais connue jusque-là. C'est peut-être ça le danger, mais c'était mon libre arbitre et mon choix de mère.
Et qu'elle associait à du bonheur.
qui est associé à du bonheur et à quelque chose quand même. Et de se dire que rien n'est noir, blanc, les choses sont grises. Peut-être que j'avais décidé d'être heureuse, mais c'était aussi pour eux et c'était pas que pour moi. Et c'était ma manière d'écrire. Voilà, okay. C'était les choses qui m'amenaient à écrire. Bon, parce que je me disais que ça parlait à d'autres gens, hein, je voulais pas juste raconter mon livre.
ça te dit d'écouter Milo ?
Oui,
tu en as parlé,
oui.
Et ça ferait une
Milo
dernière...
Milo qui est sous le chapiteau à 20h30, samedi après le spectacle Essi.
Ah, super. C'est samedi ?
Vendredi. Le spectacle, c'est le vendredi soir à 20h30, Milo, Essi est à 19h, et le samedi, Essi, c'est à 17h, et à 20h, le Rouge éternel des Coquelicots.
Alors c'est parti, parce que Milo, elle est avec sa guitare, mais je sais pas. Ah voilà, elle arrive.
Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Para rai, bete branco, caça peixe, abre caminho, patchouli. Para rai, bete branco, caça peixe, abre caminho, patchouli. Foi em uma quarta-feira. Saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou, Oxalá quem guia, Dolalaya, Oxalá quem te mandou. Ei, ai, ai. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 tanta volta pra nenhuma resposta. Nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Para rai, bete branco, aça peixe, abre caminho, patchouli. Para rai, bete branco, aça peixe, abre caminho, patchouli. Para rai, para afastar o mal, para afastar o inveja, para atrair o amor, para atrair o que pom 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 pom.
Donc, Milo.
Oui.
Donc, avant de reprendre un petit peu l'ensemble des activités qui vont avoir lieu en Palo, pour terminer, donc on parlait des réponses apportées et en guise de conclusion, peut-être que la transmission peut être une de ces réponses adéquates.
Alors, je pense que ça peut être une réponse adéquate dans tous les sens. La transmission de choses qu'on a envie de transmettre, nous, de la place où on est, mais aussi la transmission de ce que peuvent nous apprendre les plus jeunes. On l'a un peu vu ces derniers temps, justement, avec les manifestations pour la planète et les choses comme ça, et de se laisser transmettre aussi une nouvelle manière de voir le monde, je crois, nous, en tant que plus âgés. Ça va être important, ouais. Mais pour moi, ça rejoint toujours tout ce qui est vivre ensemble.
Ouais, que la transmission, c'est pas que dans un sens.
Oui, voilà. En fait, quoi. C'est pas que les anciens qui vont nous dire comment. Enfin, moi, je suis entre les deux. Hein. Je vais avoir 40 ans à la fin de l'année, donc. Mais moi, j'ai l'impression qu'on me transmet des choses tout le temps. J'ai l'impression de rien transmettre. Mais enfin, c'est souvent ça, je pense, là où on est. Mais j'ai l'impression d'apprendre comment je dois vivre et quelles pourraient être mes solutions par ceux d'en bas, par ceux d'en haut. Voilà. Entre mon père et ma mère, justement, qui ont décidé aujourd'hui d'être un peu moins investis dans la compagnie au niveau structurel, mais pour qui ça a ouvert des torrents d'envie, d'engagement, de militance, de vivre avec moins, de consommer moins, de mes enfants qui m'expliquent comment ils voient le monde de demain, qu'est-ce que ce serait leurs envies, leurs utopies. Pour moi, c'est cette transmission qui m'intéresse, oui. Et j'ai l'impression qu'il va falloir surtout qu'on s'écoute tous beaucoup.
Voilà. Bon, alors donc, on a une réponse.
Voilà.
Donc, le spectacle « Et si je regarde le monde au fond de mes yeux » donc sera joué alors, le vendredi 14 octobre à 19h.
Oui.
Ça, c'est bon.
Et le samedi 15 octobre à 17h. Alors, pour vous rassurer, c'est un spectacle qui se joue normalement en extérieur s'il pleut, s'il fait super froid. On aura des solutions de repli, mais on a très envie de le jouer dehors.
Ouais, j'espère.
Voilà.
Donc, c'est en Palo, au 9 rue...
Mombiola,
ouais. C'est ça. En Palo, ouais.
Et alors, le festival va commencer donc jeudi soir avec le Ciné-Club de la Diversité par un de nos partenaires qui est l'association Caravane. Et ils vont projeter un divan à Tunis.
C'est excellent, oui.
Voilà.
Très bon.
Donc, c'est à 19h30 sous le chapiteau. Donc, n'hésitez pas à venir. Ce sera certainement un beau moment d'échange. Le vendredi, donc, on commence par ici à 19h et à 20h30 à la suite du spectacle Milo. Mmh. Et le samedi à 17h, ici de nouveau, suivi par un petit intermède discussion, avant de reprendre et d'aller voir le spectacle de la compagnie d'entreprise Le Rouge éternel des Coquelicots à 20h, sous le chapiteau. Ah oui, et l'entrée, c'est sur participation libre, on ne dira pas nécessaire, parce que c'est comme vous pouvez.
Okay.
Et par contre, l'entrée sur le site est libre, tout simplement. La seule chose, c'est qu'il faut réserver pour les spectacles, parce qu'il y a des jauges.
Okay. Ah, tu fais
c'est
bien
juste,
préciser,
on a soit une adresse internet qui est agitteatre@gmail.com, ou vous pouvez nous joindre au 07 69 80 27 26. 07 69 80 27 26.
Tu voulais rajouter un dernier
non,
mot?
Non, j'espère que vous serez nombreux et qu'on se rencontrera à l'occasion de la gîte à Ampalo, dans Ampalo s'agite sur la friche cette année.
Ouais, parce que c'est mythique aussi, enfin moi...
Les Ampalo s'agite.
Ouais, oui. Les affiches.
Ça fait 20 ans, ouais. ça fait plus de 20 ans, 21, 22.
Et vous étiez aussi aux Argoulets pendant un moment?
Alors aux Argoulets, c'est l'autre festival, c'est l'Agite au Vert.
Ah, c'est le Vert.
C'est l'Agite au Vert qui se fait plutôt en été.
Okay.
Maintenant, on est en biennale depuis 2019 et on a une année l'Agite au Vert et une année l'Agite à Ampalo.
Ok.
Voilà. Et d'ailleurs, on a des amis d'une autre compagnie qui s'appelle Pardi, qui a pris la biennale, l'autre qui fait donc maintenant Pardi au Vert, l'année où on ne fait pas la gîte au Vert. Et ça, c'est bon. Aux Arboulets.
Coup de Guinness, merci d'être venu, d'avoir accepté ben l'invite. Et puis, je vais réserver donc, hein, pour samedi.
Super.
Je reste des places. Et à bientôt alors.
À bientôt.
Au revoir.
Merci.
Ouais.
Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emportée sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre seule.